bonjour, bonjour et bienvenue dans Fréquence Diagonale pour cette nouvelle émission. Eh bien aujourd'hui on va du côté des Pyrénées puisqu'on va voir la Ligue d'échecs des Pyrénées avec Louis Borin, son vice-président et directeur de la communication. Bonjour Louis.
Bonjour Stéphane.
Alors la Ligue des Pyrénées, une ligue qui existe depuis quand à peu près? Est-ce que tu as une idée?
Oui, tout à fait. Je vais rectifier un petit peu. C'est pas Ligue des Pyrénées, mais c'est Midi-Pyrénées. Donc ça donne un petit peu plus de soleil à notre émission. Alors la Ligue a été créée en 1978.
D'accord. Donc c'est assez récent, hein. C'est une construction récente en fait.
Oui, c'est assez récent, effectivement. Oui.
D'accord. Alors bon, ça c'est. On va revenir sur la Ligue. Alors avant de peut-être de voir ce détail sur cette Ligue qu'on va creuser un peu, Louis d'abord, toi tu es sans doute un joueur d'échecs, bien sûr.
Bien sûr.
Alors, et depuis...
Je suis un petit joueur, mais joueur d'échecs.
D'accord. Alors depuis quand tu joues? Comment a été un peu ton parcours d'échecs en quelques mots?
Oui, mais j'ai commencé quand j'étais jeune. Je suis originaire des Ardennes. Et maintenant je vis dans le Gers. Donc j'ai commencé jeune, ensuite j'avais arrêté. Et lorsque je suis venu m'installer dans le Gers en 1977, j'ai repris un petit peu les échecs comme ça. Il y avait un club qui existait à Condon. Donc j'ai repris un petit peu les échecs et voilà. Alors j'avais un objectif au niveau échecs d'arriver à 2000.lo. Et un jour, 1er janvier, j'ai eu la chance d'avoir un elo de 2000. Mais depuis ce temps-là, les années faisant, maintenant j'ai 65 ans et je vois que régulièrement mon elo baisse. Je suis arrivé à 1755.
D'accord, mais bon, 2000 élos, tu as réussi à atteindre ce niveau-là, c'est déjà très bien, puisqu'on sait que la moyenne des échecs d'un joueur classé en France, hein, c'est aux alentours de 1650.
Ouais.
Et bon, 2000 élos, c'est 350 points de plus, ce qui est évidemment beaucoup, hein, parce que ça veut dire qu'a priori, tu es quand même plus fort qu'un joueur moyen, même bien plus fort. Donc, alors, tu disais à Condon, et alors je crois savoir, puisque tu me l'as dit aux antennes, et ça c'est important, que tu as été l'initiateur, le créateur du fameux marathon de Condon.
Oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai créé avec des copains, on cherchait à créer un événement, et Condon c'est un petit peu excentré. Les gens de Toulouse, pour venir à Condon, il faut pratiquement 1h30, 2h à l'époque d'ailleurs, pareil pour Bordeaux, il leur fallait les 2h, donc faire un tournoi de semi-rapide, ça posait des problèmes pour ces gens-là. Donc en réfléchissant, on a dit, tiens, on ferait bien un marathon, et on commençait le samedi soir à 18h, donc les gens avaient le temps d'arriver, on jouait toute la nuit, on terminait le dimanche vers 16h.
Ouais, alors je me rappelle moi-même, je l'ai joué une fois, je me rappelle très bien, avec la fameuse soupe à l'ail. Hein,
Oui, tout à fait, Tourin Gascon, on l'appelle.
Ouais, Tourin Gascon, exactement.
Voilà, alors, on faisait 18 parties hein, à l'époque, mais on a réuni jusqu'à plus de 130 participants, ça avait bien marché. On l'a fait pendant 13 ans, je crois, on a fait 13 marathons, mais c'était vraiment, ça marchait bien, parce qu'on avait des gens on a eu des grands maîtres de partout, quoi. On a eu il y a Bauer qui est venu à Condon, Fraissinet, toi, on a eu vraiment un bon parcours chez Kéa.
Oui,
Roman, Marciano, Prier, René, on a eu beaucoup de grands maîtres qui sont venus à Condon.
Voilà,
très très convivial, c'était très sympa.
Oui, c'était convivial, je me rappelle bien, et effectivement il y avait des gens qui venaient de loin, y compris de Paris, voire plus loin.
Des Bretons aussi, on couvrait beaucoup de gens, effectivement.
D'accord, alors donc ça c'était pour ton parcours, donc tu as été à la fois joueur, organisateur, créateur de tournois, hein, ce qui est pas rien.
Oui, et après moi je me suis occupé du marathon pendant 10 ans,
oui.
Après il y a une équipe de jeunes qui a repris un peu, et puis bon, voilà, puis après on a arrêté, et après avoir créé le marathon, j'étais à l'origine de l'Open International de Condon, qui fonctionne encore, qui va être cette année à la 13e édition.
D'accord, et donc maintenant tu as rejoint carrément la Ligue, hein, la Ligue des Pyrénées, où tu t'occupes un peu de la communication justement, donc on va parler de cette Ligue maintenant, la Ligue des Pyrénées. Alors d'abord, la Ligue des Pyrénées, de Midi-Pyrénées, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le terme Midi, voilà, Midi-Pyrénées, tu vas nous rappeler géographiquement, ça regroupe quel département, quelle étendue?
Justement, cette Ligue Méditerranée, c'est ce qui nous pose problème d'ailleurs, c'est la plus grande région de France, et ça couvre 8 départements. Il y a environ presque 3 millions d'habitants, et le problème c'est que ça va de Tarbes, en gros, à Millau, ce qui fait 350 km, ce qui nous pose beaucoup de problèmes pour les déplacements en compétition, quoi.
D'accord.
Alors, parmi les départements, il y a l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, bien sûr, avec Toulouse, qui est la quatrième ville de France. Je crois qu'il y a 500 000 habitants, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
D'accord, voilà. Ça fait bien 8, j'ai compté. Ça fait bien 8. Donc, alors, donc, c'est, oui, donc c'est une ville, c'est une région très étendue, donc avec bien une répartition des joueurs forcément du coup assez éloignée les uns des autres. D'accord. Donc, alors cette ligue, donc tu me dis qu'elle a été créée donc en 1978. Tu viens de nous donner donc là les 8 départements qui en font partie. Alors, est-ce que dans l'histoire de cette ligue, depuis 78, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments majeurs, quelques éléments importants?
Oui, disons qu'actuellement, c'est François Zeziek qui est président de la Ligue du Méditerranée.
Oui.
Je crois que ça doit être la 6e présidente depuis l'origine. Le plus important qu'on a fait, c'est l'organisation du championnat de France, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, le temps passe vite, qui n'a pas été une réussite financière, parce qu'on avait eu un gros souci financier à l'époque. Voilà. Mais bon, on avait bien remis, quoi. Actuellement, on a un peu plus de 2000 licenciés dans la Méditerranée, on est 2064, pour être exact. Et c'est une région qui progresse régulièrement. On augmente environ de 6-7% tous les ans depuis un moment.
Ah d'accord, c'est une croissance un peu constante comme ça. C'est bien soutenu.
Bon, il y a quand même du travail de fait. Hein. On a eu des présidents qui sont succédés, qui ont tous bossé beaucoup pour les échecs.
D'accord. Et à part ce championnat de France, c'était un championnat de France qui avait lieu où? À Toulouse, je suppose?
Non, le problème, c'est qu'il avait été organisé à Labège. C'est une petite ville à côté de Toulouse.
Ouais.
Et les organisateurs, enfin, c'est pas la ligue qui pensait l'organiser. C'est un grand hôtel de Labège qui nous a proposé d'organiser ce championnat de France en nous disant qu'ils avaient l'habitude d'organiser les grandes compétitions, qu'ils avaient trouvé des sponsors, etc., etc. Et en fin de compte, Labège, ce qui les intéressait surtout, c'était de remplir leur hôtel pendant le mois de juillet ou au mois d'août, où ils ont des difficultés à remplir, parce que Toulouse, l'été, ils n'avaient pas grand monde dans leur hôtel, et donc ça leur faisait que l'on remplit leur hôtel, quoi. Et les promesses n'ont pas été tenues, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé beaucoup de sponsors. Et en plus, la ville de Toulouse, n'organisant pas elle-même le championnat de France, n'a pas donné de subvention. Et en fin de compte, ça avait fait un trou à l'époque de 200 000 euros quand même.
Ah, 200 000 francs, pardon. Oui. Oui, donc du coup, ça a refroidi la ligue, vous en organisez d'autres?
Pour l'instant, non, on n'a pas organisé d'autres. Mais on a organisé beaucoup d'autres manifestations. Hein. On a quand même, on a eu la finale de la Coupe de la Fédération, enfin la Coupe Louvatière maintenant, on a eu la finale scolaire, enfin on organise quand même pas mal de choses, quoi.
D'accord. Alors tu nous disais sur le tournoi de Condon qu'il y avait eu tout un tas de grands maîtres que tu nous as donné, tu nous as donné quelques noms. Qui était venu. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres grands joueurs, d'autres occasions où des grands joueurs sont venus en Ligue des Pyrénées?
Bien sûr. Maintenant, quand on faisait le marathon, maintenant on fait un Open. En parallèle à l'Open, on fait un tournoi de maître. Une année, un tournoi de maître féminin, une année, un tournoi de maître masculin. Et on a même fait une fois un tournoi de grand maître masculin et un tournoi de grand maître féminin. Donc il y a beaucoup de... Je pense par exemple, actuellement il y a 5 grands maîtres féminines en France, et sur les 5, il y en a 3 qui sont déjà venus en Méditerranée. Il y a Adina Andouchi, il y a Nino Menzurats, je crois, Pauline Guichard, qui a fait une norme de grands maîtres à Condon, et aussi une norme de maîtres l'an dernier.
Oui.
Voilà, il y a Natacha Belmesba qui est d'origine qui est originaire de Toulouse aussi, donc qui est connue. Il y a Mathilde Conju qui a vécu un an à Toulouse, bon, qui vient régulièrement. Et ensuite, on voit régulièrement... à l'origine, il y a eu... originaire même de la Ligue des Pyrénées, Méditerranée, il y a eu Santoroman qui était 3 fois champion de France.
Ah ben oui,
il y a Emmanuel Bricard qui était également champion de France. Si je me trompe pas, il y a aussi David Marciano.
Oui.
C'est 3 grands maîtres qui ont été formés dans la Ligue Méditerranée. Et on a aussi Philippe Brochet qui est actuellement qui est revenu d'ailleurs jouer à Lourbarousse, qui est c'est un club qui joue en National 1 en Méditerranée, et Olivier Touzan aussi qui est originaire d'ici. Quoi.
Oui, ça fait beaucoup de grands joueurs que tu nous as donné. Donc effectivement, elle est très connue, bien sûr, Santo Roman, qui a gagné, je crois, 3 fois championnat de France. Bien sûr, Emmanuel Bricard, qui était aussi connu pour jouer des ouvertures un peu ésotériques, je crois.
Oui. Emmanuel, c'est un très bon pédagogue également.
Ouais.
Et il y a aussi Maxime Lagarde qui a fait une norme à Condon, Julien Song qui a fait une norme, Vitou, Kevin Roser, enfin, y a pas mal de gens qui viennent, quoi. Et on a eu aussi Andouchi qui est voisin, Fabien Libeseski, enfin, on a eu beaucoup de maîtres, de grands maîtres qui sont venus.
Qui passent voilà. Voir les grands tournois organisés en Ligue des Pyrénées. Alors, tu nous parlais d'un tournoi, forcément, moi ça attise ma curiosité, tu nous parlais d'un tournoi de maîtres, notamment féminin, d'après ce que j'ai compris, qui est organisé cette année. Alors, c'est quel tournoi? Il a lieu où? C'est où ce tournoi? Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations?
Oui, d'autant plus que c'est mon club qui l'organise. C'est pendant l'Open de Condon qui a lieu du 14 au 20 juillet.
Oui.
Parallèlement au tournoi, il y a toujours un tournoi à Nantes organisé cette année. C'est un tournoi de grand maître féminin.
D'accord.
Et parmi les féminines qui vont être là pour ce tournoi de grand maître féminin, il y aura Natacha Belbois, qui est une habituée de la région, il y a Mathilde Conju, et bon, les autres, je ne les ai pas en tête, parce que j'ai des problèmes de mémoire, et je ne sais pas exactement qui vient.
D'accord.
Enfin, c'est deux Françaises, là, seront là, quoi.
Et ça, c'est en juillet, donc.
C'est en juillet, oui.
D'accord.
Alors, elles seront 6 au total, et elles feront double ronde.
D'accord, donc c'est un tournoi qu'on appelle fermé, c'est ça, hein, qui est réservé aux joueurs pour obtenir des normes qui leur permettent d'obtenir des titres.
Hein. Voilà, oui.
D'accord, donc c'est des tournois importants puisque ils sont moins nombreux que les Open, ils sont plus difficiles à organiser peut-être aussi, ils demandent beaucoup de concentration et d'efforts de la part des organisateurs. Et donc il est important de noter quand effectivement une ligue comme ça en organise un régulièrement, et alors encore plus pour les féminines, hein, il y en a peut-être encore moins.
Moi, je crois qu'on est les seuls en France cette année organisée.
D'accord, oui, donc c'est, ouais, ça fait une particularité pour la Ligue qui fait quelque chose d'unique alors dans ce cas-là.
Ouais. Et pendant cette Open, les parties vont être. Pas toutes les parties, on transmettra 4 parties en direct sur Internet grâce au jeu sensitif.
Alors ça se fait. Alors ça se fera cette retransmission en direct sur le site du club qui organise le tournoi ou sur le site de la Ligue?
Bon, ça sera sur les deux, mais ça part du site de Condon.
D'accord, alors on va parler un peu, puisqu'on...
retransmis sur le site de la Ligue, hein. Et puis on peut l'avoir sur le site de la Fédération aussi.
D'accord, alors on va parler un peu maintenant, justement, de ce site de la Ligue, hein, sur Fréquence Diagonale, on aime bien parler aussi Internet et moyens de communication, puisque Fréquence Diagonale lui-même est diffusé sur... sur Internet et en podcast audio. Alors, il y a le nouveau site de la Ligue Pyrénées des Échecs. Alors moi, j'ai vu ce site, je l'ai devant moi, là, sur Internet. C'est lmpe.org, hein, Ligue Pyrénées des Échecs, lmpe.org. On mettra bien sûr le lien aussi sur le podcast. Et alors, il est magnifique, hein, je trouve qu'il a été refait récemment, c'est ça, hein.
Oui, ben c'est la première chose. Enfin, il y a une nouvelle équipe qui a été élue l'an dernier, ça fait un an maintenant. Et c'est une des premières choses qui a été remise en place. On a voulu améliorer le site qui existait, qui était bien, hein, qui était pas mal, mais on a voulu l'améliorer un peu pour que ce soit plus convivial et plus facile d'accès. Et donc, c'est Jean-Charles Maté et Louis Kuziak qui sont à l'origine de la refonte de ce site.
D'accord. Alors, je vois qu'il est fait avec un logiciel libre, hein, ce qui est très très bien, qui s'appelle SPIP. Voilà, c'est un des grands outils pour gérer des sites Internet avec des logiciels libres sur Internet. SPIP, il y a aussi Joomla et WordPress, on en a déjà parlé quand on a parlé des autres ligues, hein, sur l'émission. Alors, ce site de la Ligue, alors qu'est-ce qu'on peut y trouver? Comment il est organisé? Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, tout d'abord... savoir, c'est on peut grâce à ce site on peut avoir accès à tous les départements et ensuite ça se met en place tout ça, hein. On fait des réunions actuellement on rencontre tous les CDJE et on va nommer un responsable, enfin il y a des responsables qui vont se déterminer et donc on pourra chaque département pourra avoir une place dans, ce, dans le site. Hein. Et ensuite, même les clubs dans les départements. Mmh. Alors sinon, bon, il y a la page d'accueil qui est un grand classique de tout le monde. Voilà, première page. Ensuite, on a un agenda qui reprend... l'agenda reprend toutes les manifestations, mais également on peut choisir aussi, par exemple si quelqu'un de l'Aveyron veut voir ce qui se passe dans l'Aveyron, il clique sur l'Aveyron, il choisit uniquement l'Aveyron, il aura tout ce qui se passe dans l'Aveyron, mais il peut avoir aussi tout ce qui se passe dans le Midi-Pyrénées. Si une fille veut savoir tout ce qui se passe, elle clique sur féminine, elle n'aura que les trucs qui la concernent sur le site. Donc on peut vraiment, c'est vraiment souple, chacun peut s'adapter, quoi.
Oui, je vois ça, c'est effectivement, il y a une sélection hein, par département, par voilà. Catégorie, toute catégorie féminine, jeune, les réunions, par semaine, par mois. Donc c'est, oui, voilà. C'est vraiment très bien fait. Hein. Il y a vraiment un gros travail de clarification du calendrier qui est fait. On a un très beau calendrier devant les yeux. Oui, c'est félicitations, hein, moi je trouve qu'il est magnifique ce site.
Moi qui n'ai pas très doué en informatique, j'ai pu quand même reproduire cet agenda sur mon téléphone portable et donc ça permet quand même de c'est quand même très facile au point de vue suivi des manifestations.
Ouais, alors je
ensuite veux... on a une grande carte avec tous les clubs de la région.
Je vois
alors,
ça.
Là, c'est pareil, on peut cliquer sur chaque club et avoir toutes les informations concernant les clubs.
Alors c'est magnifique là aussi, hein, je vous le commente, hein, mais je vous invite à aller voir ce site de la Ligue Midi-Pyrénées des Échecs. Effectivement, sur les clubs de la région, moi je vois une magnifique carte, routière, d'ailleurs on voit les routes, hein. Et sur laquelle est mis en évidence en bleu toute la Ligue Midi-Pyrénées. Et puis on a tous les endroits où des clubs sont placés. Il y a un numéro dessus, le numéro c'est le nombre de clubs, c'est ça?
C'est-à-dire que le numéro que tu vois, c'est le club dans le secteur. Si t'élargis un petit peu,
oui.
tu vas voir les clubs.
Ouais, d'accord, on voit les différents clubs qui en font partie, quoi. D'accord, ok, c'est ça.
Voilà, ouais. voilà.
D'accord.
Voilà, c'est une carte qui est vraiment réduite, t'as beaucoup de machins, et après, si tu élargis, tu auras les clubs individuels, quoi.
D'accord, donc c'est très bien fait, le webmaster qui fait un excellent travail sur ce club. Et alors, je vois aussi qu'il y a, sur cette liste, un forum, où je suppose que tous les licenciés de la Ligue peuvent venir débattre, proposer, discuter de tout ce qui touche le jeu d'échecs dans la région.
Oui, oui. C'est un petit peu... par contre, on a un petit souci, mais parce que ça se met en place. Souvent, les gens vont plus facilement sur le forum et ils écrivent plus facilement des informations sur le forum que sur le site. Mais ça, il faut que ça se mette en place.
D'accord, oui, il y a encore des réflexes qui sont encore tout à fait... D'accord. Bien, magnifique, hein, ce site, assez bien fait, très joli à voir, très... très ergonomique et puis qui possède effectivement beaucoup d'informations. Alors
sur la partie de droite, après il y a toutes les informations directes sur la vie de la Ligue, les départements, les compétitions jeunes, féminines, etc. Et aussi tous les résultats sportifs, les calendriers, enfin tout.
D'accord, toutes les informations nécessaires vraiment pour à la fois découvrir...
En route à raccourci, les résultats par équipe, tu cliques dessus et tu as toutes les équipes de Midi-Pyrénées qui sont engagées et qui apparaissent et après tu cliques directement sur le résultat.
D'accord.
Donc, et on essaie un petit peu, ce qu'on voudrait surtout, c'est que tous les dimanches soirs, dès que les compétitions sont terminées, qu'on puisse avoir tous les résultats de chaque club et de chaque individu.
Oui. D'accord, mais ça viendra, ça. C'est une question d'organisation.
Non, ça marche pas là, quand même. Ça ouais. Vient. Bon, parce que, en fin de compte, les PV provisoires, c'est très facile à remplir. Ça, je pense que c'est la fédération qui l'a organisé. Il faudrait que chaque club, et ça prend 5 minutes, même pas 3 minutes, on rédige le PV provisoire qui peut être tout de suite sur le site.
D'accord. Alors, on va faire une première pause, Louis, hein, dans l'émission. Et puis en deuxième partie, on essaiera de voir un peu plus justement quel est ce calendrier un petit peu donc dans l'année, dans la saison de la Ligue Pyrénées, Midi-Pyrénées, donc savoir quels sont les grands événements, les grands clubs aussi, on n'en a pas encore parlé, on a cité un petit peu comme ça, mais on va faire peut-être un petit tour. Et puis aussi, bien sûr, on parlera des dates importantes pour les championnats officiels hein, de la Ligue adulte, mais aussi jeune, bien sûr, ça nous intéresse beaucoup d'avoir... des informations sur le parcours des jeunes. Alors, est-ce que tu sais comment sont les pauses musicales sur Fréquence Diagonale, Louis ?
J'ai écouté Fréquence, mais j'ai vu un peu, oui.
Oui, alors elles sont surtout sous licence libre, voilà. Donc ce sont des musiques
D'accord.
libres comme l'émission. Ça veut dire qu'on peut librement les diffuser justement et les partager sans contrainte particulière, à contrario du copyright qui lui ne permet pas ça. On est ici sous licence libre. Voilà, donc à tout de suite sur Fréquence Diagonale, toujours avec Louis de la Ligue de Midi-Pyrénées. Et on se retrouve donc juste après notre première pause musicale. De retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Louis Borin. Louis Borin, vice-président et en charge de la communication de la Ligue de Midi-Pyrénées. Toujours avec nous, Louis.
Tout à fait, oui.
Alors, dans la première partie, hein, on a vu un petit peu ton parcours à la fois de joueur d'échecs. Tu as été 2000 Elo, tu as créé, organisé le tournoi de Condon, tu as aussi créé l'Open international de Condon, avec désormais un tournoi aussi de maître féminin, hein, dont on a déjà parlé, qui a lieu en juillet. Alors, on a parlé de la ligue un petit peu, de savoir de les 8 départements qui les composent, que je serais incapable de reciter dans l'ordre. et puis du site internet de la ligue qui est donc très bien fait, que je vous invite évidemment à visiter. Alors, maintenant on va aller un peu plus dans le détail sur cette ligue, puisqu'on va rentrer maintenant dans les clubs même, et puis dans l'organisation de l'ensemble des événements qui comptent dans l'année. Alors, est-ce que Louis, est-ce que tu peux comme ça nous faire un petit parcours à la fois des. Peut-être des dates qui comptent dans l'année, et puis de nous dire quel club les organise et comment sont ces clubs, si c'est des grands clubs qui ont beaucoup de licenciés, qui sont très actifs. Voilà. Nous raconter un peu la vie au plus proche des clubs dans ce calendrier annuel.
Bon, ben, j'ai essayé de donner le maximum d'infos, mais je m'excuse déjà auprès des clubs que j'ai oublié de citer. Quel ordre choisir? Alors, moi, j'ai choisi déjà de présenter par ordre de nombre de licenciés. Oui. Alors, celui qui a le plus de licenciés des Pyrénées actuellement, c'est l'échiquier du CUT, c'est le club d'échecs international de Toulouse, qui a 200 licenciés.
Oui.
A et B confondus. Hein. Méditerranée, on a à peu près autant de licenciés A que de licenciés B. À peu près. Maintenant, les B commencent à prendre le dessus quand même. Après, on a l'échiquier toulousain, qui était un vieux club de Toulouse, qui était, je crois même qu'ils ont gagné la Coupe de France il y a de nombreuses années, qui était tombé, qui avait fermé pendant machin, et qui a été repris il y a 4 ou 5 ans. Qui était redémarré il y a 4-5 ans, qui sont actuellement 190 licenciés, donc tout proche du CUT. Il y a Colomiers, ensuite, qui a 130 licenciés, et Toulouse-Lardenne, 120 licenciés. Toulouse-Lardenne, c'est un club qui est en plein développement actuellement.
D'accord.
Et un peu plus loin, on a également Cahors, mais Cahors a plus de 100 licenciés, mais surtout des licences B. Voilà un petit peu les 5 clubs les plus. Ils ont le plus de licenciés. Mmh. Alors ensuite, au niveau compétition. Il y a 2 clubs qui jouent en National 1, on n'a personne au top 16. Hein. Personnellement, je regrette que Toulouse, qui est 4e ville de France, n'ait pas de club en top 16, en top 12, mais bon, c'est pas irréversible, je pense. Il faudrait peut-être y travailler. C'est peut-être un objectif pour notre ligue, je pense. Alors, en National 1, il y a Lourbarousse. Lourbarousse, c'est un petit village dans les Hautes-Pyrénées, qui n'est pas forcément très connu au niveau village, mais qui joue en National 1. Avec des joueurs, Pinter par exemple, qui joue au premier échiquier, ils ont Philippe Brochet là, qui joue également. Lourbarousse est en National 1 depuis 3 ans. Ensuite, il y a le CUT donc, qui a déjà été en National 1, qui est redescendu et qui joue maintenant en National 1. Tous les deux, d'ailleurs, cette année, vont se maintenir. Ensuite, en National 2, on a 3 équipes, Condon qui est depuis plus de 5 ans, Colomiers et l'échiquier toulousain.
D'accord. Hein?
Ensuite, dans les clubs qui comptent aussi pas mal, qui sont en National 3, il y a Ramonville, Hoche, Toulouse-Lardenne aussi, deuxième équipe, Colomiers, deuxième équipe, CUT, deuxième équipe, et Muret. Voilà un petit peu les clubs qui sont les fers de lance, quoi.
D'accord. Donc ça, c'est, alors, ça, c'est pour les...
Je cite quand même, on a à peu près 30 clubs tous les ans qui participent à la Coupe de la Coupe Louvatière,
oui.
Et je suis obligé de citer Tarbes, qui a été quand même champion de France en 2008. Voilà, bon. Tarbes fait également partie de la Ligue Méditerranée.
Champion de France
De
la Coupe Loubatière. Enfin, vainqueur de la Coupe Loubatière.
Vainqueur de la Coupe Loubatière. Et Hoche est fini deuxième l'an dernier à la Coupe 2000.
D'accord, donc voilà, donc des résultats importants, hein, puisque voilà.
Voilà, ça c'est un petit peu toutes ces villes importantes, quoi.
D'accord, donc alors là, tu nous as parlé des compétitions par équipe, hein, des clubs qui participent aux compétitions nationales par équipe, interclubs. Et alors maintenant, qu'en est-il sur le calendrier au niveau des compétitions, des Open, des tournois, donc qui sont organisés dans l'année. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit parcours comme ça des grands événements annuels?
Oui. Alors, je cite en premier l'Open de Condon, l'Open international de Condon, parce qu'en même temps, il y a un tournoi énorme, donc cette année, grand maître féminin.
Oui.
Et en même temps, cette année, il y aura un tournoi fermé pour déterminer le champion de Ligue Midi-Pyrénées. Parce que les autres années, on faisait pas le championnat de Ligue Midi-Pyrénées, c'était celui qui était le premier à l'intérieur d'un des tournois les plus importants, qui qui avait le titre de champion de Méditerranée, mais à la limite, ils n'avaient pas rencontré le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Quoi, ça. Donc cette année, on fait un tournoi fermé pendant l'Open de Condon, avec les six meilleurs, avec six joueurs qui vont se rencontrer en double ronde. Donc c'est une nouveauté cette année, ça.
D'accord, alors pour ce tournoi, rappelle-nous la cadence, le nombre de jours.
Et oui, puis, il y a 9 rondes sur une semaine.
D'accord.
Donc c'est des parties longues, il y a une partie par jour, sauf le lundi où il y a 2 parties. D'accord. Donc c'est des cadences, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, et 30 minutes plus 30 secondes par coup.
D'accord, et
c'est cadences longues. Quoi,
d'accord, rappelle-nous la période de l'année, puis le...
Alors, cette Open a lieu toujours la semaine autour du 14 juillet.
D'accord.
Donc cette année, je crois que c'est du 12 au 19 juillet.
D'accord, très bien. Donc voilà, on a toutes les informations.
Ensemble, jusqu'à 130 personnes environ.
D'accord.
Très, très convivial, parce que tous les soirs, on propose des animations, tournoi de blitz, tournoi de poker, belote, et surtout, il y a ne pas rater une soirée gasconne. Donc on a une bande basse, c'est des groupes de musique, il y a 20-25 joueurs qui joue des trompettes, enfin clarinettes, des choses qui envoient.
D'accord.
Et donc il y a une animation avec les bandas, et après il y a un repas gastronomique, parce qu'il y a des producteurs de foie gras, des producteurs d'armagnac, des producteurs de vin, qui font partie des dirigeants, donc c'est pas mal. Il y avait Jean-Claude Moin qui est venu à notre soirée gasconne, parce qu'il avait entendu parler d'elle.
D'accord, Jean-Claude Moin, l'ancien président de la Fédération française.
Oui, hein. Oui.
D'accord. Et alors, donc, il y aura la soupe à l'ail aussi ou pas?
Ah non, mais il y a du foie gras et des choses comme ça.
C'est... D'accord, et donc il y a la bonne nourriture du sud-ouest.
Ah oui,
quoi.
Oui, oui.
D'accord.
Bonne nourriture, bonne boisson, tout, c'est... Voilà.
Voilà,
la convivialité, c'est vraiment sympa. Hein.
D'accord, alors voilà un Open qui compte, qu'on connaît un peu mieux maintenant que tu nous l'as décrit. Hein, je pense que tous les...
Je crois qu'on est au 13e, et depuis 13 ans, il y a quand même eu 23 normes de réaliser à l'intérieur de cet Open.
D'accord.
23 normes de maîtres et grands maîtres.
D'accord. Alors ensuite, est-ce qu'il y a donc...
Ensuite, il y a un autre tournoi de ce qu'on appelle le tournoi de l'Ouest Toulousain, qui a eu lieu en février, là, qui dure également 9 rondes, mais un petit peu sur 5 jours uniquement, hein, c'est un petit peu plus réduit, donc il y a 3 journées à 2 rondes.
D'accord.
Ensuite, il y a les... à Pâques, pendant les vacances de Pâques, il y a le tournoi de Tarbes, qui est un vieux tournoi, des plus vieux de la Ligue des Pyrénées, sur 3 jours, 7 rondes, c'est cadence 1h30, peut-être plus 30 secondes par coup, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas les cadences exactes, mais c'est un gros tournoi de Méditerranée. Il y a 120-130 personnes également.
D'accord, donc Tarbes, et c'est quand ça? C'est en avril, c'est ça?
C'est à Pâques, toujours pendant les vacances de Pâques.
Pendant les vacances de Pâques, d'accord. Très bien.
Ensuite, il y a le Club d'échecs international de Toulouse, CUT, qui organise 2 Open. Il y a l'Open de Noël qui dure sur 4 jours avec 16 rondes.
Oui.
Et l'Open de Pentecôte qui dure pendant 2 jours. Voilà, donc c'est des parties un peu plus rapides.
D'accord. Donc là, c'est des parties un peu plus rapides. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi... il y a d'autres Open parties longues dans la saison?
Non. Il n'y a que 2 Open parties longues. C'est Condon et l'Ouest Toulousain.
D'accord. Ça, c'est
les... Je reviendrai un petit peu après pour... j'en ai un autre, mais enfin, je vais finir après. Je finis là. Il y a également, au mois de mai, il y a Toulouse-Ardennes qui organise un Open aussi sur 2 jours.
Oui.
Et je crois que c'est le Tarn-Nord, je crois, qui organise un Open de 2 jours aussi, au moment du mois de septembre.
D'accord.
Il y a le tournoi de risque dans le Gers, qui organise sur 5 jours également ce qu'il appelle un circuit gascon. C'est une formule originale, parce que chaque jour, ils se déplacent, ils vont dans village en village. Quoi. Alors, c'est très convivial, c'est limité, je crois, à 50 ou 60 joueurs. Et c'est l'originalité, c'est que c'est des groupes de 8. Donc ils font des tours rondes à l'intérieur de cette Open.
D'accord, le fameux circuit gascon dont on a entendu parler sur Paris, il y a Xavier Rubini, le président du club d'échecs du Canal Saint-Martin, qui en a parlé plusieurs fois du circuit gascon, dont il est friand. Alors, parlons de maintenant peut-être, puisqu'on a fait un peu le tour des Open.
Il y en a encore deux autres.
Moi.
Il y en a un autre qui est le tournoi du Pic d'Ani qui est organisé, le circuit gascon est organisé au mois d'août.
Oui.
Et en même temps, il y a le Pic d'Ani qui c'est hors Méditerranée, mais c'est organisé par des dirigeants de Toulouse-Ardennes, donc il faut le citer quand même, qui a lieu au mois d'août. Et il y en a un autre aussi qui a lieu fin juillet, qui n'est pas organisé, qui est organisé en Midi-Pyrénées, mais qui est organisé par, par des dirigeants de Languedoc, c'est le fameux tournoi de Sainte-Afrique.
Ah oui, bien sûr.
Alors Sainte-Afrique, en fin de compte, est en Midi-Pyrénées, mais pour des raisons pratiques, on comprend très bien, l'hiver, il neige, etc. Donc pour les compétitions, c'est beaucoup plus simple pour eux d'être dans les roues. Donc ils sont en Languedoc, voilà. Mais donc ils ont choisi de, non pas de, d'être en Midi-Pyrénées, mais d'être en, d'être dans le Languedoc. Donc en fin de compte, c'est le tournoi de Sainte-Afrique, et le club, en fin de compte, c'est le club de Saint-Lodève, quoi.
D'accord.
De Lodève, il n'y a pas de Saint-Lodève.
Qui lui est un club de Midi-Pyrénées quand même.
Non, Lodève est en Languedoc.
D'accord, mais c'est la frontière, alors c'est ça, il y a une...
Oui, mais ils ont choisi pour Si tu veux, c'est plus simple pour... c'était plus simple. Enfin, normalement, ils auraient été obligés d'être en Midi-Pyrénées, comme ils ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient jouer vraiment en Languedoc, et c'est normal. Donc, ils ont mis leur siège tout seul à Lodève, et voilà.
D'accord. Donc, quelque chose d'original.
Sainte-Afrique fait partie de... Et en Midi-Pyrénées.
D'accord, quelque chose d'original, mais on connaît très bien cet Open de Sainte-Afrique.
C'est un des plus vieux de France, hein, qui rassemble environ 200 joueurs tous les ans, fin juillet.
Oui, tout à fait. Donc, qui est un Open, bien sûr, important et très connu. Alors, donc là, ça y est, on a fait le tour des Open de parties longues, je crois.
Voilà.
Voilà. Oui. Alors après, il y a bien sûr quelque chose qui nous intéresse aussi sur Fréquence Diagonale, ce sont les Open de parties rapides ou blitz, hein, mais surtout, bon, enfin, les tournois les plus importants de l'année, bien sûr, mais il y a très certainement en Midi-Pyrénées aussi des tournois de blitz ou de parties rapides qui comptent.
Ma connaissance, il y a très peu. Il y a eu des essais de faire Villeneuve-Tolosa, je me rappelle, une année. Ça n'a pas été suivi, quoi. Alors après, il y a des clubs qui organisent tous les mois des tournois, éventuellement un tournoi de blitz, mais tournoi de blitz, très peu. Par contre, il y a beaucoup de semi-rapides d'organiser. Je ne veux pas les citer tous, parce que tous les clubs en organisent pratiquement, mais il y a quand même le plus célèbre, c'est celui d'Albi, qui a lieu tous les ans le 11 novembre, et qui a rassemblé cette année, je crois, 170 personnes, c'était énorme.
D'accord.
Tournoi d'Albi du 11 novembre, vous pouvez le mettre sur vos tablettes, c'est un super tournoi, donc voilà.
Donc, qui aura lieu...
Il y a aussi le tournoi du 1er mai, qui a lieu à Muret, tous les ans au 1er mai, et il y a le tournoi de Villeneuve-Lausanne le 8 mai. Mais après, il y a plein d'autres tournois, on peut pas les citer tous, parce que... Oui. Alors donc, moi, je conseille, pour ceux qui veulent voir, donc venez sur le site de la Ligue, vous regardez sur le calendrier, et vous aurez mois par mois tous les... Sur l'agenda, vous aurez mois par mois tous les tournois organisés, quoi.
D'accord, donc même les tournois rapides, on va les retrouver sur le calendrier de la Ligue aussi, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Voilà, qui eux, par contre, se jouent bien sûr en partie de, par exemple, 20 minutes par joueur, et sur une seule journée.
Oui. Mais il y a d'autres, je cite, parce que moi j'ai une mémoire qui franche un peu, j'ai pas cité Castel, j'ai pas cité Ramonville, j'ai pas cité, enfin bon, il y a d'autres tournois de semi-rapide qui marchent bien, quoi.
D'accord. Ouais. Alors, maintenant on va arriver à un point qui est essentiel, hein, quand on parle des ligues, après avoir parlé bien un petit peu des clubs, comme on a vu, bon, les compétitions interclubs dans lesquelles ils jouent. On a vu qu'un club Midi-Pyrénées a gagné en 2008 la Coupe Loubatière. On a vu qu'il y a des Open importants, des parties longues, donc des parties sur une semaine ou plus. On a vu qu'il y en avait quand même quelques-uns, notamment Condon et...
L'Ouest Toulousain.
Et voilà, l'Ouest Toulousain. Et donc là, on a maintenant, au niveau de la Ligue... Voilà, le circuit Gascon aussi. On a vu aussi au niveau de... Enfin, il y a quelque chose d'important au niveau de la Ligue maintenant aussi, bien sûr. Ce sont les compétitions, ben, tout simplement, de Ligue, hein, c'est-à-dire celles qui donnent droit à des titres de champion régional, champion adulte, mais aussi, bien sûr, tout ce qui va concerner les tournois aussi pour les jeunes, très important, bien sûr, notamment. Donc les qualifications à la fois départementales pour les jeunes, et puis régionales, et enfin qui mènent... au fameux Graal, hein, pour quand on est un jeune joueur, c'est-à-dire d'aller pouvoir jouer un fameux championnat de France toute catégorie, qui est en général un très très grand événement national, hein, qui réunit plus de 1000 joueurs et quasiment 2000 voire 3000 participants avec les accompagnants. C'est un événement considérable. Comment se déroulent ces compétitions régionales de Ligue, comment ça se déroule pour les adultes, et puis après, bien sûr, on va détailler pour les jeunes, et en donnant aussi les dates et les calendriers.
Mais alors, pour les adultes, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc avant c'était à l'intérieur d'un tournoi, le premier de Midi-Pyrénées était sacré un Open international, le premier Midi-Pyrénées, des champions de Midi-Pyrénées. Cette année, on va le faire dans le cadre de l'Open de Condon, en toute ronde, avec 6 joueurs. Voilà. Ça, c'est pour les adultes. Ensuite, pour les jeunes, bon, c'est un petit peu traditionnel, comme partout en France. Il y a déjà les championnats départementaux qui sont organisés. On a choisi la formule de pour sélectionner les gamins au championnat de ligue. On prend tous ceux qui ont fait moitié des points plus un demi. Par exemple, j'en ai à 7 rondes. Celui qui fait donc moitié, c'est 3,5 plus 1,5, c'est 4 points. Celui qui fait 4 points sur 7 est sélectionné pour le championnat de ligue des Pyrénées.
D'accord, ça a lieu quand là déjà les championnats départementaux? C'est quelle date?
Les départementaux, c'est, en général, c'est fait avant le 15 janvier. Alors chaque département choisit la date qu'il veut. Hein.
D'accord, mais avant le 15 janvier?
Avant le 15 janvier. Et, par contre, tous les cadences, tout ce qui est technique, c'est normalisé dans tous les départements. Hein. Donc on a tous les mêmes critères pour sélectionner les gamins.
D'accord. Et après, voilà. Donc, le championnat de ligue, lui...
Le championnat de ligue des Pyrénées, nous, on a voulu que ça soit assez convivial. Donc, on a choisi de les faire dans les départements. L'an dernier, c'était dans le Gers. Cette année, ça s'est déroulé à Cahors, au mois de février, hein, pendant les vacances de février. L'an prochain, on parle du Tarn. Enfin, voilà. Donc, on change tous les ans de département, si on peut. Et on rassemble tout le monde dans un même lieu. En général, c'est un lycée. Alors, l'avantage, c'est que c'est très convivial, les gens se connaissent, les parents aussi, et c'est vraiment très positif, à mon avis, pour les... Bon, je prends l'exemple de que je connais bien, le Gers. Il y avait une dizaine de parents du Gers qui étaient présents cette année. Le soir, les gens discutent entre eux, et bon, ça permet aussi de développer mieux le CDJE. Ça apporte vraiment quelque chose au CDJE. Alors ensuite, cette année, donc il y avait 120 jeunes qui étaient réunis à Cahors. Et il y en a eu 25 qui ont été sélectionnés pour le championnat de France.
D'accord, 25 jeunes de Midi-Pyrénées vont aller jouer.
Il y a deux clubs qui tirent un petit peu le épingle du chapeau, là, c'est Toulouse-Ardennes, qui est un club qui, ce que je disais tout à l'heure, qui est en train de se développer beaucoup, qui a eu 5 qualifiés, et l'Échiquier Toulousain qui a eu 4 qualifiés.
D'accord, donc.
Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu une quinzaine de clubs quand même qui ont eu des. Sur les 25, il y a quand même 15 clubs différents qui ont eu des qualifiés, quoi.
D'accord. Alors, au niveau des. Peut-être au niveau maintenant du. Une fois qu'on a vu donc ces dates-là, donc on a vu hein, vacances de février pour la qualification pour les jeunes au championnat de France, qualification des ligues. Qu'en est-il? Est-ce que tu as des informations à nous donner, des éléments concernant le palmarès des jeunes de Midi-Pyrénées? Est-ce qu'il y a eu ces dernières années, hein, bon, bien sûr, si on faisait toute l'histoire, on en trouverait d'autres, mais est-ce qu'il y a eu des champions ou des quasi-champions de France chez les jeunes?
Oui, il y a quelques années, la Ligue Midi-Pyrénées avait eu beaucoup de. La même année, je crois qu'ils avaient eu 4 qualifiés, 4 champions de France. Il y avait Olivier Touzan, qui est toujours dans le circuit des échecs. Il y a Arnaud Courrier, je ne sais pas s'il joue toujours, je crois que oui. Et Philippe Brochet, donc Touzan et Brochet sont maintenant maîtres internationaux. Il y avait un quatrième dont le nom m'échappe. Donc c'est une année, donc on avait eu 4 champions de France. Mais depuis, ça avait baissé un petit peu. Et là, régulièrement, il y a une qui est très connue, c'est Mathilde Broly, qui a été plusieurs fois championne de France. Malheureusement, maintenant, elle a quitté la région Méditerranée. Et l'an dernier, elle était donc vice-championne de France l'an dernier, hein, pas championne. Et en même temps, il y a eu Jawa de Mache, qui était aussi vice-championne de France. D'accord. Ils ont fait tous les deux championnats du monde cette année avec des bons résultats. Surtout pour Mache, qui était c'était la première fois qu'il participait à une compétition de ce niveau-là, quoi.
D'accord.
Le souci pour Midi-Pyrénées, c'est que ces jeunes ont tendance à. Les champions de France ont tendance ensuite à partir dans d'autres régions, notamment où il y a des compétitions jeunes de haut niveau. Parce que c'est un petit peu la faiblesse de notre ligue, c'est qu'on n'a pas actuellement, on n'a plus d'équipe au top jeunes.
D'accord. Alors, tu nous as parlé
on perd un petit peu nos champions, quoi.
D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure d'une joueuse qu'on connaît, qui effectivement.
Natacha.
Oui, Natacha Benmesba, et que tu disais qu'elle était formée à Toulouse. Alors, elle a réussi des choses aussi au championnat de France des jeunes ou.
Oui, bah, elle était plusieurs fois championne de France, elle a même été vice-championne d'Europe. Hein,
d'accord. Donc, tu as oublié de la citer, alors.
Non. Et elle est, je crois elle est maître international féminin.
Oui, oui, voilà, parce que je crois qu'elle joue le national maintenant, toute catégorie.
Oui, oui, bien sûr, une joueuse brillante.
Oui, une joueuse voilà, qui...
Tout pendu.
Voilà, qui joue avec Alain, on va dire. Hein. Voilà. Donc, très bien.
Picardie, elle joue actuellement, c'est ça? Non, pardon. Oui.
Mais je crois que j'ai joué une partie avec elle il y a quelques années. Je crois que j'avais perdu d'ailleurs.
Oui, ben, le 2200, autour de 2000, je crois qu'elle a perdu un petit peu là récemment.
Ouais. Donc, très bien. Donc, bah, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour hein, de tout ce qu'on pouvait, disons, bien résumer, hein, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, tout dire hein, sur une ligue qui a comme ça, bien sûr.
J'aimerais quand même ajouter que, un petit peu au niveau de la ligue, on a organisé pour la première fois, on n'avait pas d'entraîneur. Il y avait qu'un seul entraîneur, c'était salarié de la ligue d'ailleurs. Oui. On n'a plus de salarié de la ligue maintenant. Mais maintenant, on a 10 entraîneurs, on a fait des stages avec, comment ça s'appelle, Annick, Darko.
Voilà, Darko. Oui.
Et donc maintenant, on a 10 entraîneurs, et la priorité de la ligue, c'est quand même d'encadrer les meilleurs jeunes, quoi. Donc on essaie, par exemple, au championnat de la Ligue Méditerranée, il y a des entraîneurs qui étaient là des clubs, mais ils ne s'occupent pas que de leur club. Chaque gamin de Méditerranée, même s'il n'y a pas de joueur de haut niveau dans son club, peut trouver quelqu'un qui analyse ses parties. Et ça, c'est vraiment c'est une volonté qu'on a dans la Ligue.
D'accord.
Les jeunes qui vont aller au championnat de France, ils sont encadrés par 3 entraîneurs. Enfin, il y aura aussi des adultes qui vont les encadrer. Mais au niveau technique, il y a 3 entraîneurs. Et chaque entraîneur aura à sa charge environ 6 gamins qui va suivre. Et donc n'importe quel gamin de n'importe quel club perdu au fond du Gers, de l'Aveyron, de n'importe où, peut être encadré par un joueur, par un entraîneur de haut niveau.
D'accord, très bien. Alors peut-être un dernier mot qu'on n'a pas cité, un détail, mais il me vient à l'esprit comme ça, mais la ligue elle-même, elle est située où, le siège officiel de la ligue, c'est à Toulouse, je suppose ?
On est à Toulouse, on est au DOS, comité départemental olympique et sportif.
Ouais, d'accord.
À ce propos-là, l'an dernier, on avait des soucis au niveau financier, parce que les échecs, bon, c'est quand même le poids qui blesse, c'est vraiment les finances. Et pour notre peine, par exemple, de Condon, la région nous pensait diminuer notre subvention qu'on a de par 5. Ouais. Parce qu'on n'adhérait pas, parce que la Fédération française n'adhère pas au Comité national olympique et sportif. Mmh. Et là, c'est vraiment, donc il faudrait absolument que ce soit Fédération délégataire pour ça. Et bon, on s'est battu, on a eu gain de cause, mais par exemple actuellement le conseil régional subventionne à hauteur de 8000 euros en moyenne tous les clubs sportifs jouant en National 1, 2 ou 3, les clubs amateurs sportifs. Dans le Midi-Pyrénées, il y a 100 clubs amateurs qui ont 8000 euros de subvention, les échecs, zéro. Ouais. Ça c'est un combat qu'on doit mener, et il faut absolument le gagner, quoi. Il y a plus de 300 sportifs en Midi-Pyrénées qui reçoivent une subvention de 1000 euros parce qu'ils sont champions de France ou parce qu'ils ont de bons résultats. Les échecs, zéro. C'est pas normal. Mais alors donc, on a besoin de se mobiliser, de se battre pour faire évoluer ce genre de choses.
Ouais, là, on va rentrer dans des problèmes démocratiques au sens large, hein, parce que c'est un problème qui dépasse même le jeu d'échecs. Hein, c'est la façon.
C'est un petit peu notre faute aussi, parce qu'on ne demandait pas jusqu'à maintenant. On a tendance à ne pas demander. Hein, moi je sais que dans le Gers, on a bousculé un petit peu le conseil général pour avoir des aides, et maintenant il y a un petit club local Gondrin qui va monter en National 4 cette année, il est premier en Régional 1, il va monter, c'est sûr, et il aura automatiquement une subvention de 500 euros tous les ans du conseil général parce qu'il joue en National 4.
D'accord.
Ça c'est parce qu'on s'est battu pour l'avoir.
D'accord. D'accord, donc ben, sur cette note qu'il faut continuer à se battre, puisque rien n'est jamais acquis. Alors écoute, merci beaucoup hein, Louis de nous avoir fait hein, ce parcours hein, du Midi-Pyrénées, de cette ligue Midi-Pyrénées hein, qui doit faire rêver. Enfin moi ça, c'est une des ligues qui me fait rêver. Évidemment, ça, ben, c'est un des magnifiques lieux de France, hein, à la fois la mer et la montagne, on a tout. Donc vous êtes verni, hein, je crois qu'on peut dire ça.
Ah oui, c'est magnifique. Allez, une dernière petite chose quand même, ce qui est très important pour la Ligue, pour les dirigeants de la Ligue, c'est les CDJE. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui permet aux échecs de se développer.
Oui.
Et depuis 8 jours, on a un CDJE dans chaque département.
Oui, on rappelait CDJE, simplement un comité départemental du jeu d'échecs.
Du jeu d'échecs.
Voilà, voilà.
Ceux qui organisent un petit peu toutes les manifestations départementaux.
Voilà, et là, bien sûr, dont on pourra retrouver les coordonnées, là encore, sur ce fameux site de la Ligue Midi.
J'ai oublié de dire aussi, parmi ces 8, il y a quand même deux présidentes féminines. Il y a deux femmes qui dirigent des CDJE, et notre Ligue est une des rares à avoir une présidente aussi. Voilà, donc le côté féminin se porte bien aussi en Méditerranée.
Ouais, d'accord, la parité est presque respectée, quoi. Hein. Au moins au niveau des présidents. D'accord. Mais merci.
100% des présidents de ligue qui sont des femmes.
Merci, d'accord. Merci beaucoup, Louis, de nous avoir accordé ton temps pour cette émission Fréquence Diagonale spéciale Ligue Midi Pyrénées des échecs. Et puis, donc, on aura peut-être l'occasion de refaire un tour en Midi Pyrénées d'ici l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas saluer, qui sait, un nouveau champion de France ou un nouveau grand tournoi organisé spécialement en Midi Pyrénées. Merci beaucoup, Louis. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Fréquence Diagonale. Et puis, je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir, je vous laisse en attendant avec notre générique fétiche. Au revoir.
Au revoir, Stéphane, et merci beaucoup.